des livres plein les oreilles. Et nous sommes en 2026 et voici le premier épisode de ce balado qui en compte déjà 224, du moins depuis qu'il s'appelle « Des livres plein les oreilles ». Mais c'est la 369e émission que je fais sur les livres audio ici à Canalem avant que ça porte ce nom-là. Alors mes vœux, oh bah oui, c'est encore le temps d'en faire parce que pour moi ce sont les premiers. On va vous les souhaiter bien bonnes à plus d'une reprise, je vous le dirai peut-être, mais je voudrais surtout vous la souhaiter bonne à plus d'une manière en ce début d'année. Alors, je voudrais ici souhaiter surtout, peut-être pour vous qui aimez le livre audio, pour moi, mais aussi pour tous les artisans qui font l'univers du livre audio, je voudrais leur souhaiter cette année une année différente des autres. Autrement dit, je voudrais que tout d'un coup, nos gouvernements cessent de faire la sourde oreille. C'est le cas de le dire quand il s'agit de livres audio et qu'ils fassent comme dans les plupart des pays au monde, s'arranger pour que de plus en plus de personnes, et pas seulement les non-voyants ou les gens malades de difficultés particulières, aient accès à cette autre façon de lire. Voilà, je l'ai dit. Alors, bonne année aux livres audio et à tous ceux qui en font et à vous qui en écoutez. Pour commencer l'année en douceur et en sagesse, tiens, une voix et une plume de chez nous, une voix que vous aimez, une voix caressante, une voix qui rassure, qui soutient, qui exhorte à la paix de l'esprit, le vôtre et, espérons-le, celui de la terre. Et puis, juste après, un sujet qu'on entend beaucoup en ce début d'année. Cette année, moi, c'est certain, j'arrête. Faites-vous partie de la gang, de ceux qui vont arrêter de fumer, qui vont arrêter de boire? Bon, voulez-vous un petit coup de pouce? Allez, j'ai ce qu'il vous faut. Nicole Bordelot est toute fragile, toute menue, mais au fond d'elle-même, c'est quelqu'un qui nous apparaît comme très solide. Et si elle compte autant d'adeptes d'ailleurs au Québec, c'est parce que on sent cette énergie-là, on sent ce désir de faire du bien aux autres et de se faire du bien à elle-même. Mais elle n'est pas, comme tout le monde, à l'abri de gros soucis. Et c'est ce qui lui est arrivé en 2023, une véritable traversée du désert. Elle dit qu'elle a été fragilisée par l'effritement de ses repères. Alors, son carnet d'écriture, hein, celui dans lequel elle note absolument tout, qu'elle aille bien ou qu'elle aille moins bien, ou on va le dire autrement, que ça fasse mal ou que ça fasse bien, eh bien, elle continue à noircir des pages et des pages et elle explore ainsi pour nous cette espèce de passage énigmatique qu'elle appelle la cinquième saison, lorsque on se sent complètement à côté de ses pompes, disons ça comme ça. Cette cinquième saison, c'est une expérience intime, parce qu'elle sera différente pour nous tous et nous toutes, qu'on parle d'une perte, d'un deuil, d'une épreuve, une maladie, un traumatisme, peu importe. Mais c'est de cela dont il s'agit dans ce livre, cette nouveauté qui est parue le 27 novembre 2025 en audio. C'est lu par Nicole Bordelot. On écoute un extrait de « Une cinquième saison ».
Hier soir, des vagues de frissons m'ont tenue éveillée. Je me suis retrouvée au seuil d'une nuit blanche. Moi qui, dans ma jeunesse, cherchais à vivre mes heures nocturnes sous le joug de l'adrénaline, j'ai perdu depuis fort longtemps cette soif de sensations enivrantes. Heureusement, grâce à des cycles de respiration profonde, j'ai réussi à trouver le sommeil. Toutefois, ce matin, je me sens fatiguée. J'accepte cette réalité. Je laisse place à la fragilité de mon être au mieux de mes capacités. J'y réponds par du repos. Jusqu'ici, chaque passage, chaque transition d'un cycle au suivant fut précédé d'une période de doute et de questionnement. Où en suis-je avec le détachement? À ce moment-ci de mon existence, qu'est-ce qui ne me ressemble pas et qu'est-ce qui ne me ressemble plus? Quels sont les objets, les possessions qui m'encombrent? quels sont les rôles, les étiquettes qui m'alourdissent? Quels sont les liens, les obligations, les engagements qui m'engourdissent? Pendant ce questionnement identitaire, certaines de nos croyances et de nos attentes doivent céder leur place à un non-savoir. C'est là le vertigineux défi. Notre nature profonde nous pousse à vouloir savoir, prévoir, planifier. Pourtant, un moment vient où il n'est plus possible de s'accrocher au connu. Une situation inattendue surgit, un événement bouleverse notre quotidien et le changement devient inévitable. Pour que la transformation ait lieu, il nous faut accepter de lâcher prise, de céder le contrôle. Or, face à l'imprévu, nous réagissons souvent de manière instinctive. Il est là le paradoxe. Nous sommes des êtres à la fois complexes et contradictoires. D'une part, nous rêvons de faire de notre vie une grande et vertigineuse aventure, alors qu'en notre fort intérieur se niche le besoin inné d'être en sécurité. D'autre part, nous caressons de grandes ambitions pour notre avenir et nous envisageons de nous dépasser alors qu'il y a dans notre ADN une quête viscérale de permanence et de prédictibilité. De même, nous avons soif de défis suprêmes, faim de renouveau, mais cependant, nous cherchons à définir à l'avance le sens des choses à venir. Comme tout le monde, face au courant de l'instabilité, je cherche un port d'attache, un repère, une forme d'ancrage. Pourtant, j'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'il me faut apprendre à composer avec l'incertitude. Pour évoluer, il est nécessaire de renoncer à l'idée des garanties. Certains jours, lorsque je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, je me dis qu'il est là, le beau et grand mystère de vivre.
Ah, la voix de Nicole Bordelot lisant un extrait de son plus récent livre « Une cinquième saison ». Faites-vous partie de ceux qui ont décidé, qui se sont dit « Allez, nouvelle année, j'arrête de boire. Pouf, allez !» Hop là, c'est ce qu'a fait Claire Touzard, c'était en 2021. Elle a expliqué à son père breton et alcoolique qu'elle souhaitait arrêter de boire. Vous savez ce qu'il lui a répondu, son chaleureux papa? Il lui a dit « Tu n'y arriveras pas, c'est dans ton ADN ». C'est épouvantable, mais c'est comme ça. Il y a encore beaucoup de gens qui sont aux prises avec ce qui est, alléluia, considéré de plus en plus comme une maladie. Et cette femme-là, qui a donc arrêté de boire, soutenue en cela par son compagnon, soutenue par le mouvement des alcooliques anonymes, dont elle franchit les étapes, eh bien, cette femme-là, elle écrit quand même, et c'est d'ailleurs le sous-titre à son bouquin, « Être sobre, c'est bien plus subversif qu'on ne le pense ». Et c'est ce qui m'a un petit peu attirée à ça. Il y a un critique, en fait, c'est une personne qui a lu le bouquin, j'ai trouvé ça sur Babelio, qui a dit « c'est un livre sur l'alcool », moi je rajouterais c'est plutôt un livre sur l'abstinence d'alcool, mais aussi sur le corps des femmes et sur ce qu'il peut subir de l'extérieur ou ce qu'on peut lui infliger. Ici au Québec, je ne sais pas comment c'est, mais je sais qu'en France, quand tu es une femme alcoolique, là, ça passe, mais alors vraiment pas. Tu as le droit d'être un homme alcoolique, même que ça paraît bien, mais une femme alcoolique, ouf. C'est un récit courageux qui peut aider d'autres personnes dans la même situation. C'est très intéressant et sans doute nécessaire. Alors voilà, peut-être que cela va vous aider, vous, avec cet extrait de Sans alcool, être sobre et bien plus subversif qu'on ne le pense. C'est écrit par Claire Touzard et on va entendre la voix de Sandy Masson.
S'installe parfois la frayeur de l'abstinence totale. De voir ma vie basculer dans une autre dimension. Mon quotidien n'est désormais plus cimenté par l'alcool, par les apéros, les dîners arrosés. Or, il me semble encore que mon existence se réduisait à ces festivités. Que vais-je faire à la place? Quel sera mon futur? Pour hausser l'anxiété, je descends prendre l'air avec ma chienne Gloria. Nous errons dans mon quartier. L'alcool me manque, de façon fugace. Mais il y a, derrière, une sorte de malhonnêteté intellectuelle de ma part. Comme si mon cerveau désirait faire fi du côté négatif, pour ne me rappeler que de belles images. Des mirages. C'est bien là le problème, m'a dit Alexandre. L'alcool est un plaisir. Et vouloir s'en passer se révèle très complexe. Quand on arrête, le plus dur est d'associer ce plaisir vendu par tous. Par les vignerons, le caviste au coin de la rue, votre beau-père, votre meilleur ami, à quelque chose qui détruit votre vie. La société ne fait pas cette distinction. À chaque nuisance engendrée par l'alcool, elle appose une illusion d'allégresse et de partage. Ce soir, même si je sais l'alcool néfaste pour moi, partout, il clignote de sa joie de vivre exubérante. Je me sens exclue de la fête. Alors qu'un couple de jeunes se roule des pelles, du château Margot plein la langue, dans le bar en bas de chez moi. C'est un bar où j'ai coutume d'aller, tenu par un couple de beaux gosses, soigneusement endimanchés. Ils sortent de leur antre blanc et virginal, boisé et pimenté d'odeurs florales, pour me saluer. « Alors, on ne te voit plus ces derniers temps ? On a un nouveau vin orange à te faire goûter. » Prestement, je les salue. Je n'ose pas leur parler de mon nouvel état. Je ne suis plus de cette culture-là. Je leur dis mentalement, écartelé par une tragédie interne. Adieu. Plus loin, des étudiantes un peu excitées jettent des cris rauques sur la chaussée. Leurs ongles peints s'agitent dans les airs. Elles parlent de mecs ou de petites galères. Elles sirotent leur teinte avec avidité. Ma coiffeuse s'en jette un au bistrot, avec la boulangère et son chien. Elle me propose un demi, je prétexte un dîner. Dehors, tout le monde trinque, avec une excitation proportionnelle à l'avancée de la nuit. Cette rumeur que forment les verbes légèrement éméchés, les corps qui se chopent et s'entrechoquent, qui fendent la nuit vers un bar bondé. Tout cela semble lointain. Je n'habite plus ce monde-là. Je ne fais plus partie, me dis-je, de la liesse générale. Je suis une étrangère en mon propre pays. Une damnée. Une traîtresse. Je ne partage plus l'amour du pinard. Je rate cette heure bénie où l'on noie ses coups durs et ses grandes joies sous des grands crus. Je ne partage plus rien avec la société française. Ce constat m'érafle légèrement le cœur. Je ne trinquerai plus. Pas ce soir, ni aucun autre. Ce sentiment définitif est puissant, vertigineux. Mais il est sans appel. Car au fond, je le sais bien. Ce que je gagne est bien plus immense que ce que je perds.
C'est quelqu'un qui a l'abstinence un petit peu amère, cette femme Claire Touzard qui a écrit « Sans alcool, être sobre est bien plus subversif qu'on ne le pense ». Il y en a une autre qui, elle, a eu l'alcoolisme destructeur et qui a connu une abstinence heureuse. Cette femme-là s'appelle Laurence Cottet. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Non, j'ai arrêté, trouver un chemin de sortie face à l'alcool ». C'est une autre femme, oui, qui a brisé le tabou. Elle-même complètement brisée par la maladie de l'alcoolisme. Parce que oui, c'est une maladie qui attaque le cerveau, bien sûr, mais pas tous les cerveaux. Comme la migraine, par exemple, n'atteint pas tout le monde ou n'importe quelle maladie qui nous emporte ou nous emporteront. Alors certains sont emportés par cette maladie de l'alcoolisme. Je vous présente Laurence Cottet, qui le fut, qui ne l'est plus depuis maintenant de nombreuses années. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant et c'est une aide certainement plus saine que pas mal de médicaments qu'on vous donnera peut-être si vraiment vous décidez un jour de devenir sobre. Voici un extrait de « Non, j'ai arrêté » avec la voix de Laurence Cottet puisque c'est le prologue.
À Marie-Diane, Pierre est mon père, mais invisible. En préambule, Le jour où mon destin a basculé, de l'enfer à un petit coin de paradis. Tout a basculé en l'espace de 3 mois. La catastrophe devait arriver, ce n'était qu'une question de temps. Les portes se refermaient une à une, cela devait se terminer ainsi, je le pressentais depuis longtemps. Je ne le redoutais pas, car je voulais en finir, lasse de me battre seule. 10 années d'alcoolisme dans les veines, un suicide à petit feu. Le vin, au début, était mon meilleur compagnon pour masquer ma trop grande solitude. Qu'il soit cuit, sec ou moelleux, frais ou ambiant, blanc, rouge ou rosé, pétillant, il me donnait toujours l'euphorie et l'ivresse. Il m'assommait dans un lit défait et devenu froid. Il remplissait mon réservoir émotionnel, vide d'amour depuis de nombreuses années. Depuis la mort de mon mari, Pierre, la solitude peut causer de terribles ravages dans l'âme humaine. Cet élixir qui, subrepticement, insidieusement, était devenu depuis 10 années mon pire ennemi. Je ne vivais plus que pour lui. J'avais perdu la liberté de m'abstenir de boire. Lorsque d'autres le sirotaient, je lampais le mien, je ne maîtrisais plus ma consommation. Début novembre 2008, 9h. Je rentre à pas compter, forcée, timide, dans une librairie bien achalandée située dans le 14e à Paris. J'ai de la chance. Il n'y a pas grand monde à cette heure creuse. Je me dirige vers une vendeuse qui m'apparaît ouverte. « Bonjour, madame. Je cherche un livre sur l'alcool, sur les effets de l'alcoolisme, un ouvrage concret et pratique pour m'instruire. » Un lourd silence s'installe. Elle me dévisage visiblement surprise, presque gênée. D'autres têtes se retournent vers moi. Ma question intéresse, interpelle, dérange plutôt. Vous comprenez, ce n'est pas pour moi, mais pour une amie qui boit un peu trop. Et je voudrais qu'elle se rende compte aussi avec un livre ou un document témoignage. Peut-être que c'est plus facile. Lui faire comprendre qu'elle est dans l'excès. Ou dans la dépendance, sans doute, mais peut-être aussi qu'il y a des solutions à son problème avec l'alcool. Je bafouille, je baisse les yeux, la honte me tétanise, me muselle. Silencieuse, la jeune dame me scrute avec des yeux de varan. A-t-elle compris que ce livre est pour moi? Que je mens? Que je biaise par honte de mon état? Sans doute, car les signes de mon visage trahissent depuis bien longtemps mon alcoolisme, et je le sais. Elle répond d'emblée d'une voix sèche et cassante. « Non, désolée, madame, nous ne vendons pas ce type d'ouvrage. » Un long silence. Je tremble de tout mon corps, mon âme est en berne. Je baisse les yeux. Je sors, le regard à terre, les épaules rentrées, portant les mines que je devine plombées des têtes bien faites, bien pensantes des quelques clients de ce magasin. Je suis sans doute la honte de ce début de matinée.
Oui, la honte, tout ça, hein, c'est ce que racontent tous ces gens qui passent par cette décision, d'abord par cet alcoolisme et par cette décision d'arrêter de boire. Puisqu'on est dans alcool, tout d'un coup, je me suis dit, oh, j'aurais envie d'écouter du Apollinaire. Et j'ai choisi la voix de Bernard Métro pour nous faire ce petit plaisir.
Aujourd'hui, tu marches dans Paris. Les femmes sont ensanglantées. C'était, et je voudrais ne pas m'en souvenir, c'était au déclin de la beauté. Entourée de flammes ferventes, Notre-Dame m'a regardé à Chartres. Le sang de votre Sacré-Cœur m'a inondé à Montmartre. Je suis malade d'ouïr les paroles bienheureuses. L'amour dont je souffre est une maladie honteuse. Et l'image qui te possède te fait survivre dans l'insomnie et dans l'angoisse. C'est toujours près de toi, cette image qui passe. Maintenant, tu es au bord de la Méditerranée, sous les citronniers qui sont en fleurs toute l'année. Avec tes amis, tu te promènes en barque. L'un est Nissard. Il y a un Mentonasque et 2 Turbiasques. Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs, et parmi les algues nagent les poissons. Image du Sauveur. Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague. Tu te sens tout heureux. Une rose est sur la table, et tu observes, au lieu d'écrire ton conte en prose, la cétoine qui dort dans le cœur de la rose. Épouvanté, tu te vois dessiner dans les agates de Saint-Vie. Tu étais triste à mourir le jour où tu t'y vis. Tu ressembles au Lazare affolé par le jour. Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours, et tu recules aussi dans ta vie, lentement, en montant au Ratchin et le soir en écoutant dans les tavernes chanter des chansons tchèques. Te voici à Marseille, au milieu des pastèques. Te voici à Coblenz, à l'hôtel du Géant. Te voici à Rome, assis sous un néflier du Japon. Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide. Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde. On y loue des chambres en latin cubicula locanda. Je m'en souviens, j'y ai passé 3 jours et autant à Gouda. Tu es à Paris, chez le juge d'instruction. Comme un criminel, on te met en état d'arrestation. Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge. Tu as souffert de l'amour à 20 et à 30 ans. J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps. Tu n'oses plus regarder tes mains. Et à tout moment, je voudrais sangloter sur toi, sur celle que j'aime, sur tout ce qui t'a épouvanté.
Si cette voix vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous aimez le comédien Bill Murray ou encore Kevin Spacey. C'est sa voix, c'est Bernard Métro qui double ces comédiens-là et d'autres pour le cinéma. Donc on a entendu un extrait de Alcool de Monsieur Apollinaire. Fait du bien, un petit peu de poésie comme ça. Pour finir cette première partie, on va mettre la table pour l'ami Gérald Cousineau qui va venir nous parler du prix Goncourt La Maison Vide de Laurent Mauvignier, à qui on doit aussi, parmi la, je ne sais plus combien, 40 ou 50 livres, il a écrit, à qui on doit aussi Continuer, qui existe en livre audio. Continuer, c'est le livre d'amour, d'une histoire d'amour, voilà, incomparable entre une mère pour son fils. C'est aussi un roman d'aventure, assez sauvage, assez abrupt, un petit peu comme un western, finalement. Cette femme-là, Sybille, est en train de voir sa vie s'effilocher. Elle a un fils et elle redoute que pour son fils, ce soit la même chose. Alors, elle vend tout pour amener son fils Samuel dans cette grande aventure. On écoute un extrait de Continuer.
La veille, Samuel et Sybille se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d'alpage. Les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles, sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes. Et puis au réveil, lorsque Sybille sort de sa tente, une poignée d'hommes se tient debout et la regarde. Il lui faut 3 secondes pour les compter. Ils sont 8. Et 1 seconde de plus pour constater que les 2 chevaux sont encore à quelques mètres, là où on les avait laissés hier soir. Samuel se lève à son tour. Il ne comprend pas tout de suite. Il regarde sa mère et, à l'agressivité qu'il reconnaît dans la voix des Kirghizes quand ils se mettent à parler, à questionner en russe, et surtout parce qu'à sa façon de répondre, il voit que sa mère a peur, il se dit que la journée commence mal. Sybille parle russe. C'est l'avantage d'avoir eu des grands-parents qui ont fui l'Union soviétique. Mais c'est comme si elle n'entendait rien de ce que lui dit l'un des types. Elle fixe un instant ses yeux bleus, son visage fermé, les autres avec leur tête noircie par le soleil et le travail. Mais qu'est-ce que c'est que leur travail ? Sybille sait qu'au Kirghizistan, voleur de chevaux est un travail qui a une tradition et une noblesse. Alors, pour l'instant, elle ne répond pas, ou seulement en posant d'autres questions. Et les autres ignorent si c'est seulement sa voix et son accent qui déforment les mots qu'elle dit, ou si c'est bien la peur, l'émotion, le danger qu'elle ressent. Pendant ce temps, Samuel s'est levé, il a empaqueté ses affaires. Il démonte sa toile de tente et lance des coups d'œil à sa mère. On regarde les chevaux qui broutent de la luzerne un peu plus loin, en se disant qu'il faudra se rapprocher. Mais pour l'instant, c'est le cercle des 8 hommes qui se referme, se rétrécissant, se précisant comme les questions qui fusent. D'où venez-vous comme ça? Pourquoi vous venez dans ce pays où il n'y a rien à faire? Pourquoi vous avez envie de marcher si haut dans les montagnes? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez et pourquoi une femme se promène seule avec un garçon si jeune? Vous n'avez pas de mari? Il n'y a pas d'homme avec vous, non? Et vos chevaux, ils ont l'air robustes? Vous les avez achetés où? À qui? Loin? Au marché, à Auch? À Bishkek? Sibyl et Samuel ne regardent pas le type pendant qu'il lance ses questions. Elle continue de parler en rangeant ses affaires, des gestes précis qu'elle ne pensait pas avoir déjà acquis. Elle pourrait faire le pactage les yeux fermés. Elle continue de poser des questions pour ne pas répondre à celles dont le débit se fait de plus en plus pressant. On a défait et rangé les tentes, scellé les montures. Samuel détache les chevaux. Les hommes ne disent plus rien. Ils ricanent, observent.
Dans Télérama, Martine Landreau rend un vibrant hommage à ce livre-là, continué de Laurent Mauvigné, en disant que rarement Mauvigné avait osé une telle évidence des sentiments, une telle puissance du don à l'autre, puisqu'il faut rappeler que cette mère, Sibylle, va tout faire pour sauver la vie qui s'étiole de son fils Samuel. C'est pour ça qu'elle l'amène en Kirghizistan, faire cette espèce de voyage initiatique où les chevaux ont une grande importance. Cela met la table pour mon ami, qui est déjà d'ailleurs, je pense, au bout du film et qu'on va accueillir d'ici quelques secondes, Gérald Cousineau, qui lui a écouté, réécouté pour nous La Maison Vide de Laurent Mauvigné, prix Goncourt, lu également par la voix qu'on vient d'entendre dans l'autre livre de Mauvigné, continué, c'est la voix de Denis Podalydès. Alors restez avec nous d'ici une trentaine de secondes, je me tourne vers Gérald Cousineau et on va se tourner encore ensemble vers Laurent Mauvigné. Vous écoutez Des livres pleins les oreilles. Vous l'avais-je dit? Je me souviens plus. C'est en quelque sorte la seconde partie de ce balado des livres pleins les oreilles qui s'ouvre comme chaque deux semaines avec la voix de Stentor, cette voix mielleuse et romantique à souhait qui est celle de Monsieur Gérald Cousineau. Salut Gérald!
Salut Clotilde!
Alors, est-ce que tes oreilles ont vibré en écoutant cette brique immense qu'est ce Goncourt de l'année?
D'abord, je reviendrai sur continuer. J'aime bien la voix du lecteur, Denis Podalydès.
Oui, Denis Podalydès, c'est un des plus grands comédiens français. C'est un comédien qui appartient à la Comédie française.
D'ailleurs, à propos de continuer, j'ai pris la peine de le réécouter pour les besoins de notre rencontre. Alors, et j'ai eu autant de plaisir à la deuxième ou troisième écoute qu'à la première.
Oui, parce que Monsieur Mauvigné, Gérald, on a l'impression, moi en tout cas, je ne connaissais pas. Je connaissais son nom, je savais que c'était un auteur, mais je n'avais aucune espèce d'idée de ce qu'il avait écrit.
Ce n'est pas un écrivain qui défrait la manchette comme Beck BD ou Carrère. Ce n'est pas une vedette là, au sens traditionnel du terme. Là. Je pense qu'il aime bien vivre un peu en retrait.
Mm-hmm. Mais il en a écrit des bouquins, hein?
Oui, oui. Et d'ailleurs, j'allais le dire, il est très disponible en format audio. Bon. Moi, j'ai pu en écouter 6 ou 7, alors...
Bon, formidable, parce qu'en audio commercial, il n'y en a que 2 disponibles.
Ah bon?
C'est-à-dire La Maison Vide, dont vous allez nous parler, et Continuer, évidemment, dont j'ai parlé dans cette émission.
C'est dommage, parce que moi, je recommanderais, entre autres, Histoire de la nuit, paru en 2022, qui est une sorte... Non, 2020, qui est une sorte de thriller campagnard. Oh là là, il y a un suspense là-dedans là, qui n'est pas piqué des verres, là. Histoire de la nuit.
Histoire de la nuit, c'est noté.
Mais d'abord, donc,
alors,
le prix Goncourt cette année,
oui.
La maison vide, donc une brique, vous l'avez dit, Clotilde, de plus de 740 pages. Oui, c'est une 16 heures d'écoute. Ah. Mais je vous dirai tout de suite que je suis très content.
Alors c'est fou parce que, excusez-moi de vous interrompre,
oui, oui,
mon
oui.
ami, je vous donnerai 30 secondes ou une minute de plus, je vous le promets, mais vous, vous dites 16 heures en version accessible, mais
oui.
Moi, en version commerciale lue par Denis Podalydès, j'ai 20h30.
Oh là là, t'es curieux quand même cette différence.
Ouais, absolument. Mais c'est pas grave, allez, on continue.
Oh oui, oui. Donc, la maison vide de ce monsieur qui est né en 1967 hein, à Tours, en France. Donc, il est dans la... même pas dans la... fin cinquantaine. Mm-hmm. C'est un dramaturge, il ne faut pas l'oublier, c'est un dramaturge et un romancier. Romancier d'abord, dramaturge ensuite. Et donc, on l'a dit, prix Goncourt, le prix du journal Le Monde, prix Landerneau, etc. Donc, plusieurs prix. Donc, la maison vide, c'est quoi? Ben là, c'est une véritable machine à remonter le temps que ce roman. Hein. Mmh. D'ailleurs, je mets le mot roman entre guillemets. Là. Donc, vraiment une machine à remonter le temps parce que ça couvre à peu près 150 ans de l'histoire familiale de Laurent Mauvigné. Nous nous retrouvons à la fin du 19e siècle quand même. Mais le prétexte, c'est qu'en 1976, le père du narrateur, donc le père de Laurent Mauvigné, ben, va rouvrir une maison que sa mère lui a léguée. Ben, elle a été abandonnée depuis une vingtaine d'années. Et là-dedans, il y a quoi? Eh bien, il y a un piano. Le piano va occuper une grande place dans ce livre. Il y a un piano, il y a une commode qui, elle aussi, est très importante dans le roman. Il y a des papiers, bon, des photographies très importantes aussi. Donc, ça se passe en 1976. Et ce père-là, donc, eh bien, bizarrement, il va se donner la mort en 1983, alors que Laurent Mauvigné, je l'ai dit, est né en 67, donc il a 16 ans en 1983, quand son père se donne la mort, et il va essayer de comprendre. Donc, il va remonter vraiment le temps, mais il va le faire à partir de la fin du 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'il remonte au temps où il y avait Firmin. Firmin, c'est l'ancêtre.
Ah, c'est ça.
C'est l'arrière-arrière grand-père du narrateur.
Oui.
Et il est patron de la ferme. C'est une ferme près de La Bassée. Je ne connais pas ce village, cette petite ville. C'est près de Lille. Aujourd'hui, ça fait partie de Lille. Donc, dans le nord, je pense, de la France.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, c'est dans ce coin-là. Il a une grosse ferme. Il est le patron, un patron assez dur, là. Il a des employés, tout ça. Et ce patron-là a une femme, bien sûr, qui s'appelle Jeanne-Marie. Il a une fille qui s'appelle Marie-Ernestine. Marie-Ernestine, c'est une des trois femmes maîtresses, si on peut dire, de ce roman. Parce que le roman est vraiment dominé par trois femmes. Il y a Jeanne-Marie, la mère, dure, intransigeante. Il y a sa fille, Marie-Ernestine. Marie-Ernestine, elle aime beaucoup le piano. Elle a découvert cette passion au couvent, parce qu'elle passe 8 ans au couvent. Et quand elle va sortir du couvent, qu'est-ce qu'elle va trouver à la maison? Eh bien, son père lui a acheté un beau piano noir. Mais elle qui voulait aller au conservatoire de Paris, non. Le père pose une condition. Tu as le piano si tu épouses l'un de ses employés qui s'appelle Jules.
Ah,
petite déception quand même. Oui. Elle va l'épouser et elle ne l'aime pas, mais elle va finir par l'accepter. Elle va finir par l'aimer finalement. Donc Jules et Marie-Ernestine s'épousent en 1905. Entre-temps, Firmin, l'ancêtre, le père, meurt lui en 1906.
Bon, oui, alors attendez, là je voudrais pas, retenez bien votre idée, mais parce que je voudrais qu'on aille peut-être tout de suite à l'extrait, parce que dans l'extrait, donc, si je vous comprends, on est avec le père de Laurent Mauvigné, qui donc découvre cette pièce dans cette maison que lui a léguée son propre papa, et donc il est en train d'ouvrir les tiroirs de la commode pour y trouver, ben, on va voir ce qu'il y trouve.
Je m'étais mis une note. Dire tout de suite qu'on écoute l'enregistrement. Et je suis passé par-dessus.
c'est pour ça que je me suis permise pour ne pas qu'on aille trop loin, on va revenir. Ouais. Alors, on écoute cet extrait et c'est toujours la voix de Denis Podalydès.
Pourquoi j'ai passé ma matinée à la chercher, cette Légion d'honneur? Je ne me le rappelle même plus. Seulement que soudain, il a fallu que je la trouve, que je la prenne entre mes doigts, comme si c'était immiscé un doute, une incertitude quant à sa réalité, comme si elle n'avait pu exister que dans un tiroir de mon imagination. Pourtant, c'est sûr, j'ai vu ici, touché, soupesé, il n'y a encore pas si longtemps, quelques semaines, quelques mois, moins d'un an, il me semble, ce tissu rouge vaguement moisi, l'étoile à 5 rayons doubles émaillés de blanc et surmonté de sa couronne de chêne et de laurier, au revers le drapeau et l'étendard, la devise « Honneur et patrie ». Je l'ai vu, Mais ce n'est pas un fantasme ou la vague réminiscence d'un rêve. Non. Alors j'ai fouillé de fond en comble comme un forcené dans la commode. J'ai ouvert tous les tiroirs. J'ai même cherché parmi les serviettes et les draps, n'importe quoi, dans l'armoire normande de l'autre chambre, celle du fond, du côté du jardin et des trois chênes qui bordent la clôture. Bien sûr, je n'y ai rien trouvé. Alors je suis revenu à la commode, accélérant presque le pas. Comme si une fraction de seconde, c'était la commode elle-même que j'aurais pu avoir inventée. Et pourquoi pas les souvenirs de mon père, dans leur boîte d'un bois brun dégageant une senteur de miel, poussiéreuse. Un relent de sous-bois contenant les reliques que je connais le mieux. Des objets que je l'ai vu porter, que j'ai vu vivre avec lui. Des boutons de manchette, une pince à cravate argentée à motif tartan. Reliques qui signent, pour ainsi dire, sa mort, en le figeant dans ses 46 ans. Mon père.
Et oui, mon père, qui se donne la mort alors qu'il a 46 ans quand même. Et c'est ça qui frappe dans l'histoire dans ce roman. Ce n'est pas Jojo, oh là là!
Oui.
On passe comme de malheur à un autre. D'ailleurs, il y a un critique qui lui a reproché ça, le sérieux de l'auteur. Mais quand on écoute, quand on lit tout ce qui leur est arrivé, tout ce qui est arrivé à cette famille, c'est une saga familiale, je l'ai dit, mais ça n'est pas assez des vertes et des pas mûres. Donc, je reviens un peu à Jules et Marie-Ernestine, qui, elle, a eu son destin contrarié. Elle voulait vivre du piano. Finalement, elle va épouser Jules, elle va rester à la ferme. L'ancêtre Firmin va mourir, tout ça. Donc, et ce couple-là, c'est très drôle parce que, bien sûr, c'est un livre de mémoire, mais en partie imaginé. Parce qu'évidemment, Mauvigny va raconter le repas de noces de Jules et Marie. Il n'y était pas, évidemment. Et mieux que ça, il va raconter leur nuit de noces. Ça, c'est un des rares passages où on peut sourire. Mais on se dit, mais il n'y était pas.
oui.
Évidemment. Mais là, il y a le romancier qui l'emporte sur le mémorialisme.
Ben, oui.
Et à nouveau, effectivement, quelques scènes savoureuses. Je le dis parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce long roman. Donc, il raconte cette nuit de noces, tout ça. Et ils ont une fille qui s'appelle Marguerite, pardon. Et cette Marguerite, c'est le deuxième personnage principal de ce roman.
D'accord.
Avec, donc, le troisième, c'est Jeanne-Marie, la mère de Marie-Ernestine. Cette Marguerite va donner du fil à retordre à sa mère. Oh là là, il s'en passe des choses. Elle va, adolescente, elle va travailler dans un magasin de vêtements. Il va découvrir l'amour physique, non pas avec un homme, mais avec sa collègue de travail. Un jour, la patronne du magasin les retrouve, elle retrouve deux employés dans une chambre avec son mari. Oh là là! Alors, elle les met à la porte. Donc, il s'en passe des choses incroyables.
Ouais.
Donc, cette Marguerite, elle, la guerre arrive, elle a deux enfants. Entre-temps, elle rencontre André, qui est le grand-père du narrateur. André, lui, bien sûr, est mobilisé, il va à la guerre. Marguerite se retrouve chez elle avec deux enfants. Et là, elle en arrache un peu financièrement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut savoir où André a été amené en Allemagne, où il est prisonnier en Allemagne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rencontrer un sous-officier allemand, un officier allemand de la préfecture. Et là, peu à peu, il va se tisser une aventure amoureuse entre ces deux-là. Or, imaginez la famille qui constate que leur fille a une relation amoureuse avec un officier allemand. Alors, elle est mise au banc de la société,
bien
en quelque
sûr.
Sorte. Alors, à la libération, elle va être tondue, va mourir, et là, c'est vrai, c'est pas de l'imagination, elle va mourir en 54, alors qu'elle n'a que 41 ans quand même. Pensez au père du narrateur qui meurt à 46 ans, sa grand-mère meurt à 41 ans, elle est alcoolique, elle est seule, et sa mère, Marie-Ernestine, va mourir en 49 ans. Il y a beaucoup de décès dans cette histoire, mais... Moi, ça m'a quand même fasciné, même si c'est très long, effectivement, 150 ans de vie familiale, mais il y a quelque chose de fascinant là-dedans, parce qu'il y a une bonne part, évidemment, de création littéraire. L'auteur n'a pas eu le choix, même s'il part de faits vérifiés généralement, il part de gens qui ont existé, mais les histoires de ces gens-là sont pleines de trous. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour remplir les trous, et il va leur créer une sorte de monde fictif dans lequel, justement, ils vont avoir une existence. Donc, il leur donne une existence à partir de faits, en fait, à partir de pas grand-chose. Mais si on y croit, c'est formidable. Si on y croit, c'est une très belle aventure. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'est long, on l'a dit et redit. D'ailleurs, je remarque une chose, parmi les nombreuses critiques qu'il a eues, je remarque qu'il y en a moins eu que pour Colcos, par exemple.
Oui.
Pour Colcos, là, c'était dithyrambique. Pour Mauvigny, c'est un peu plus, je dirais pas tiède,
non,
mais c'est un peu plus froid. Et je voulais parler de bémol, parce que notre ami, entre guillemets, Frédéric Becbédé,
oui,
qui est critique littéraire au Figaro,
oui,
magazine,
oui, oui,
il va dire une petite méchanceté, il va dire avec ironie, et le titre de l'article, c'est « Pourquoi Laurent Mauvigné... comment il dit ça? Pourquoi Laurent Mauvigné... ah là là... fait-il peur... Non... ou fait-il peur au lecteur qui ne lui ont rien fait? Enfin, un truc comme ça.
Donc, okay.
J'ai souri en lisant ce titre-là, parce que Becbédé trouve que le livre est vraiment long, qu'il est sérieux. Même, il s'est ennuyé carrément.
Ah, mais, oui?
Personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Mais je peux comprendre qu'on puisse s'y ennuyer. Encore là, il faut porter, je pense à ceux qui vont écouter le livre, il faut porter une extrême attention, parce qu'on passe d'un personnage à un autre. Et Mauvigné, ben, ce n'est pas un récit linéaire. Il se promène dans le temps. Ça, je l'ai souvent dit dans ce genre de saga familiale. Il faut porter attention parce qu'il se promène dans le temps. Nous sommes tantôt avec la famille, tantôt il revient à lui-même et tantôt il change d'époque. Donc, il faut vraiment porter attention. Mais si on le fait, si on est attentif, on peut avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Même si, encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas une histoire très, très rigolote. Mais c'est une formidable reconstitution, formidable remontée dans le temps. Et ça, je pense que c'est maîtrisé. Vraiment, il écrit bien, ce monsieur Mauvigné.
Alors, j'ai l'article sous les yeux. Frédéric Becbédère, pourquoi Laurent Mauvigné veut-il punir les lecteurs qui ne lui ont rien fait, demande-t-il. Et il en rajoute un petit peu plus loin en disant « Il ne faudrait pas oublier que derrière la besogne de l'auteur, qu'on ne doit pas aimer ça quand on est auteur de se faire traiter de besogneux,
il existe,
et alors tenez-vous bien, une sudation du lecteur. » Il a la. Bon, alors voilà tout ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup Gérald, parce que c'était pas évident
de nous
raconter, de nous faire la synthèse encore une fois de ce livre là qui fourmille de naissances et de morts et de non-dits. Mais vraiment, vous avez fait ça comme un as. Alors merci infiniment. Et puis oui, je vous recommande, si vous avez envie de le réécouter, la version de Denis Podalydès, parce que c'est vraiment...
Et de lire d'autres livres de Mauvigné, je pense qu'il vaut le détour amplement.
Merci beaucoup Gérald, c'était une très bonne façon de commencer l'année avec ce Goncourt 2025. Alors je nous en souhaite encore beaucoup de ces chroniques délicieuses que vous nous faites à ce balado des livres plein les oreilles. Prenez soin de vous Gérald.
Au plaisir et à bientôt.
Ah, cher Gérald, si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer. Mais il faut quand même le faire, Gérald, pour ceux qui se joindraient seulement à nous. Je ne le rappelle pas à chaque fois, mais quand j'en ai l'occasion, je le fais. Et là, j'ai un petit peu de temps, alors je vais le faire. Gérald est totalement aveugle. Et moi, je l'ai connu à une époque où il voyait encore un peu. Mais au fur et à mesure, la dégénérescence a fait son œuvre et maintenant, il est vraiment totalement aveugle. Et quand il écoute un livre audio, il en écoute au moins entre 5 et 10 par semaine et il les écoute plusieurs fois. Ce qui est quand même complètement hallucinant. Et cet ancien prof de littérature, eh bien, il a conservé en lui cette passion pour les mots. Et vous avez entendu comme moi comment il en parle. C'est toujours un vrai régal. Et quelle voix il a, mon Dieu, que j'aurais aimé. Si cet homme-là avait eu ses yeux, je suis certaine qu'il aurait fait de la narration à haute voix et qu'on aurait eu beaucoup de plaisir à l'entendre. Alors, c'est l'heure des nouveautés. Il y en a une dont je voulais parler depuis pas mal de temps parce que je voyais souvent la publicité passée sur les réseaux sociaux, puisque évidemment je suis abonné chez Audiolib, Lizzy, Gallimard et tout ça pour que je puisse vous parler de leurs nouveautés. Il faut bien que je puisse en prendre connaissance. Et ça faisait longtemps, par exemple, que chez Audiolib, on nous proposait d'écouter le livre qui s'appelle « La collision », livre de Paul Gasnier ou Paul Gagné. C'est possible aussi qu'on ne prononce pas le S et je ne le sais pas. C'est lu par Pierre Rochefort. Je vous ai dit Audiolib, ce n'est pas vrai du tout. C'est chez Gallimard Audio, autrement dit la collection, l'excellente collection, devrais-je dire, « Écouter lire ». « La collision », c'est un livre qui nous emmène en 2012. On est en plein centre-ville de Lyon. Il y a une jeune femme qui décède brutalement. Elle est percutée par un jeune garçon qui est en motocross et qui fait une espèce de rodéo urbain. Autrement dit, il va risquer sa vie en pleine ville et celle des autres. Il roule à 80 km/h, plein centre-ville de la ville de Lyon. 10 ans plus tard, le fils de celle qui est décédée est complètement hanté par ce drame. Il est devenu journaliste. Et là, il va observer la façon dont ce genre de catastrophe est utilisé quotidiennement pour, comme il dit, fracturer la société et dresser une partie de l'opinion contre l'autre. Alors il décide de se replonger dans la complexité de cet accident et de se lancer sur les traces du motard pour comprendre d'où est-ce qu'il vient, quel a été son parcours et comment un événement a été rendu possible. Autrement dit, on va décortiquer la vie de deux personnes, celle qui est décédée et la personne qui l'a tuée en moto, ce jeune garçon-là. Telle est l'histoire de la collision de Paul Gasnier ou Paul Gagné. Gasnier, ok, on prononce le S, c'est bien parfait. Lu par Pierre Rochefort, dont voici un extrait.
Racaille, le mot interdit, que si peu de responsables politiques ont osé prononcer. Il est enfin répété, assumé, jeté à la face des médias dans un sourire libérateur. Un mot qui ne veut rien dire, mais dont on comprend parfaitement qui il désigne. Un mot de passe complice, que l'on glisse dans les conversations pour se reconnaître entre semblables. Sur scène, la violence verbale prétend n'être qu'une réponse à la violence délinquante. Une brutalité qui travestit la colère en conviction et le ressentiment en intransigeance. « Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit !» Ces mots, surpuissants, ces appels au sursaut, sont d'une redoutable efficacité. Je le sais, parce que j'aurais pu en être le meilleur réceptacle, si l'on ne m'avait pas appris à en détecter les receleurs. Tout le monde l'ignore, surtout ceux qui me jettent des pop-corns, mais j'aurais pu m'approprier l'un de ces « ça suffit ». Mon passé m'y autorise. Car au milieu des sifflets et des hurlements des hooligans, l'homme sur scène offre la traduction politique d'une colère qui m'habite depuis des années et qui me propulse au cœur de la guerre culturelle qui corrode le pays. Une colère à induction lente, née d'un homicide routier qui a brisé ma vie quand j'avais 21 ans. Une collision survenue 10 ans plus tôt, une après-midi de juin, dans une rue tranquille du centre-ville de Lyon. Le 6 juin 2012, à 17h13 précisément, selon l'horloge intégrée aux caméras de surveillance municipale, Saïd, 18 ans, qui est alors délinquant récidiviste, remontait une rue étroite des pentes du quartier de la Croix-Rousse, en roue arrière, sur une motocross lancée à 80 km/h. Après quelques mètres, il en perdait le contrôle. La roue avant percuta en pleine tête une femme de 54 ans qui pédalait devant lui à vélo. Cette femme, c'était ma mère. L'hôpital Lyon-Sud de Pierre-Bénit la déclara décédée une semaine plus tard. Ce livre est le récit de cette collision, qui n'est ni un accident ni un meurtre. Une histoire française du début du XXIe siècle où deux destins parallèles voués à s'ignorer se sont percutés dans un pays éclaté et malade. Le jour où elle va mourir, ma mère se réveille découragée. Depuis 3 semaines, elle scrute les chiffres de fréquentation du centre de yoga qu'elle a ouvert à Lyon. L'affaire ne marche pas aussi bien qu'espéré. Et nous avons beau lui répéter, mon père, ma sœur et moi, qu'une clientèle met du temps à se constituer, rien n'y fait. Elle a le moral dans les chaussettes. Pourtant, à 54 ans, elle a tout pour être comblée. Elle est en haut de la vague, comme ses proches diront 2 semaines plus tard, le jour de sa crémation, qui aura lieu à 5 km à peine de cette grande table où elle prend son dernier petit déjeuner. Sa fille vit en Colombie avec son mari. Son fils termine ses études et elle a prévu de partir en vacances au Liban.
Oui, c'est le propre d'un accident. Hein. On se réveille et on ne sait pas que le soir on ne sera plus là. C'est un extrait de La Collision de Paul Gasnier, G-A-S-N-I-E-R, lu par Pierre Rochefort. Ça a été édité par Gallimard Audio. Écoutez lire, donc vous pouvez aller chercher ce livre directement par le net via le site internet de Gallimard. On va maintenant passer, j'aime bien finir l'émission sur une note de jeunesse, sur quelques rires, ou au mieux, au moins quelques sourires, quoi. C'est plutôt sympathique. Et je suis tombée sur cette série que les parents connaissent peut-être bien, mais que moi je ne connaissais pas. C'est la série des petites poules. Et alors, il y a un résumé tout à fait charmant qu'on nous fait pour chacun des titres. Je ne sais plus combien il y en a, je pense qu'il y en a 8 en tout, 8 épisodes. Résumé par exemple, oh, pondre, pondre, toujours pondre, il n'y a pas que ça dans la vie, moi je veux voir la mer. Ça c'est une des petites poules qui s'appelle Carmela, c'est la petite poule blanche. Son père, le coq, n'a jamais rien entendu d'aussi fou. Philonie, ordonne-t-il à sa petite poulette. Mais Carmela n'arrive pas à s'endormir, elle veut voir la mer. Et puis il y a Carmen, l'intrépide poulette. Il y a son frère, Carmelito, qui recueille un chaton horriblement noir. C'est épouvantable, ça porte malheur, un chaton noir dans un poulailler. Et puis, il y a aussi les petites poules et leurs mamans qui sont restées seules au poulailler. Puis qu'à ce moment-là, il y a une bande de fouines qui vont les attaquer sauvagement, les lâcher et puis s'en prendre à de pauvres petites poulettes sans défense. Et alors, en l'absence de Carmelito puis des petits coqs, on se demande si les filles vont réussir à repousser les terribles prédateurs. Bref, ce sont des séries absolument adorables de 10 minutes chacune. En voici 3 petits extraits.
Lizzie présente Un petit dodo au poulailler. Une histoire de Christian Heinrich et Christian Jolibois. Lue par Martin Spinaillère et de multiples comédiens. En souvenir de Maurice, mon papa, Christian Jolibois. Pour Mélanie, ses deux enfants Juliette et Camille et Félix, aux commandes de leur formidable école SEIS de l'île Maurice, Christian Heinrich. Sous la direction du chef d'orchestre Pedro le Cormoran, les petites poules sont en pleine répétition. Carmen, Carmelito et tous nos jeunes virtuoses s'entraînent à jouer sans fausse note le concerto pour citrouille et courgette. Une œuvre joyeuse et champêtre qu'ils interpréteront bientôt pour fêter le jour le plus long de l'année. L'exécution de la pièce de musique avec ses harmonieux cric, glonc, prout, est un pur enchantement.
Pour rien au monde, Carmelito et ses copains n'auraient manqué l'ouverture de la pêche. Mais hélas, ils n'ont pas encore pris le moindre petit goujot. Au bout de leurs hameçons, les asticots s'ennuient et passent le temps en faisant des ronds dans l'eau. Oh là 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 là, ça ne mord pas. S'impatientent les petites poules. Sur la berge, des jeunes poussins mènent un joyeux tapage. « Silence, les marmots !» chuchotent les pêcheurs. « Vous faites fuir les poissons !»« J'ai une touche !» s'exclame soudain Coq en Pâte.
« Oh, ouais, c'est un gros !»
Sous le regard envieux de ses amis, Coq en Pâte remonte fièrement sa prise. Ce n'est ni un saumon, ni un brochet, un vieux sac de toile.
C'est à moi! Écartez-vous! Ordonne Coq en Pâte.
À peine a-t-il dénoué la ficelle qu'il pousse un cri d'effroi.
Ah! Sauf qu'il peut! Un chat noir! Un chat porte-malheur!
La petite Carmen s'approche du rescapé. Tu l'as échappé belle, mon chaton. Mais quelle drôle d'idée d'apprendre à nager dans un sac. Son frère, Carmelito, n'est pas très rassuré.
Oh, ne touche pas à ce matou, Carmen. On dit que les chats noirs sont maléfiques.
Comment un garçon aussi intelligent que toi peut-il croire à ces sornettes? Se moque sa sœur. Carmelito, tout penaud, entreprend de frictionner le pauvre animal afin de le sécher et de le réchauffer. Comment t'appelles-tu ? Lui demande-t-il. Le petit félin répond qu'il n'a pas encore de nom.
À la ferme, c'est l'heure de la tonte. Sous les rires moqueurs des petites poules, les bergers du roi taillent à grands coups de cisaille l'épaisse toison des moutons en chantant à tue-tête.
Il faut qu'un mouton, soit tondu. Approche mon mignon, tu es le bienvenu. Encore un mouton, de tondu. Là là qu'il est moche, maintenant qu'il est tout nu. Au suivant.
C'est au tour de Bellino, le petit bélier.
Non, je veux pas y aller. Je refuse qu'on me prenne la laine sur le dos.
Je l'avais dit quand même que c'est sympathique. Ça vous intéresse pour vos enfants? Vous tapez Les Petites Poules. Livre audio Les Petites Poules, c'est fait chez Lizzie. Vous pouvez aller directement chez Lizzie, L-I-Z-I-E. Merci beaucoup Mathieu Tessier en régie. Merci beaucoup à mon ami Gérald Cousineau de nous avoir présenté le Goncourt de l'année. Et puis ben voilà, c'était la première, le premier balado de l'année, mais il y en aura plein plein d'autres. C'est Clotilde Seille. Allez, bonne année encore. Allez, ça y est, c'est dit. Ça suffit maintenant. Ça suffit.